Il semble donc que tu aies été le dernier à voir Adelme vivant, lui dit-il. Béranger vacilla, comme sur le point de tomber en pâmoison. Moi ? Demanda-t-il avec un filet de voix. Guillaume avait lancé sa question presque au hasard, probablement parce que Bensé lui avait dit avoir vu les deux s'entretenir dans le cloître après vêpres. Mais il devait avoir visé juste, et d'évidence, Béranger pensait à une autre, et vraiment ultime rencontre, parce qu'il commença à parler d'une voix brisée.
« Comment pouvez-vous dire cela ? Moi, je l'ai vu avant d'aller me reposer, comme tous les autres. »
Alors, Guillaume décida qu'il valait la peine de ne pas lui laisser de répit. « Non, tu l'as vu encore, et tu sais plus de choses que tu ne le donnes à croire. Mais ici, deux morts sont désormais en jeu, et tu ne peux plus te taire. Tu sais fort bien qu'il y a mille façons pour délier la langue d'un homme. » Guillaume m'avait dit plusieurs fois que, même en tant qu'inquisiteur, il avait toujours répugné à utiliser la torture, mais Béranger le comprit mal, ou Guillaume voulait se faire mal comprendre. En tout cas, son jeu s'avéra efficace.
« Oui, oui, » dit Béranger en fondant en larmes. « J'ai vu Adelme ce soir-là, mais je le vis déjà mort.
« Comment ? » interrogea Guillaume. « Au pied de l'escarpement ?»«
Non, non, je le vis là, dans le cimetière. Il déambulait entre les tombes, larves parmi les larves. J'allais à sa rencontre et je m'aperçus aussitôt que je n'avais pas en face de moi un vivant. Son visage était celui d'un cadavre, ses yeux regardaient déjà les peines éternelles. Ce n'est naturellement que le lendemain matin, en apprenant sa mort, que je compris en avoir rencontré le fantôme. » Mais à ce moment-là déjà, je me rendis compte que j'avais une vision et que devant moi se trouvait une âme damnée. Un lémur, ô Seigneur, avec quelle voix sépulcrale il me parla.
Et que dit-il ?
Je suis damné. Ainsi, me dit-il, tel que tu me vois, tu as devant toi un rescapé de l'enfer qui doit en enfer retourner. Ainsi, me dit-il. Et moi je lui criais, « Adelme, tu viens vraiment de l'enfer ? Comment sont les peines en enfer ?» Et je tremblais, car depuis peu j'étais sorti de l'office de Compli, où j'avais entendu des pages terrifiantes sur l'ire du Seigneur. Et lui me dit, « Les peines de l'enfer sont infiniment plus grandes que notre langue ne peut le dire. Vois-tu, dit-il, cette chape de sophisme dont j'ai été revêtu jusqu'à aujourd'hui ? Elle me pèse et m'écrase comme si j'avais la plus grande tour de Paris ou les montagnes du monde sur les épaules. » Et je ne pourrai jamais plus la déposer. Et cette peine m'a été donnée par la divine justice pour ma vanité, pour avoir cru mon corps lieu de délices, et pour avoir supposé en savoir plus que les autres, et pour avoir pris plaisir à des choses monstrueuses qui, caressées en imagination, ont produit des choses bien plus monstrueuses au-dedans de mon âme, et maintenant avec elles je devrais vivre pour l'éternité. Vois-tu, le plomb de cette chape est comme mille bras et feu ardent. Et c'est le feu qui arde mon corps, et cette peine m'échoua pour le péché malhonnête de la chair dont le vice m'enflamma. Et ce feu, or, sans trêve, flambe et marde. Tends-moi la main, ô mon beau maître, me dit-il encore, afin que ma rencontre soit enseignement utile et te rende en échange les nombreux enseignements dont tu me gratifieras. Tends-moi la main, mon beau maître. Et il secoua le doigt de sa main qui brûlait. Et une petite goutte de sa sueur tomba sur ma main, et j'eus l'impression qu'elle me trouait la main. Des jours durant, j'en portais la marque, mais je pris soin de la cacher à tous. Alors, il disparut parmi les tombes, et le lendemain matin, j'appris que son corps, qui m'avait si terrifié, se trouvait déjà mort au pied des murailles.
Béranger haletait et pleurait. Guillaume lui demanda, « Et comment se fait-il ? Qu'il t'appelait son beau maître. Vous aviez le même âge. Tu lui avais peut-être enseigné quelque chose. » Béranger se cacha la tête en rabattant son capuchon sur sa face et tomba à genoux en embrassant les jambes de Guillaume.
« Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il m'appelait ainsi. Je ne lui ai rien enseigné. »
Et il éclata en sanglots.
« J'ai peur, mon père. Je veux me confesser à vous, miséricorde. Un diable me dévore les entrailles. »
Guillaume l'écarta et lui tendit la main pour le relever. « Non, Béranger, lui dit-il, ne me demande pas de te confesser. Ne clôt pas mes lèvres en ouvrant les tiennes. Ce que je veux savoir de toi, tu me le diras d'une autre manière, et si tu ne me le dis pas, je le découvrirai par moi-même. Demande-moi miséricorde si tu veux, ne me demande pas le silence. Vous êtes trop nombreux à vous taire dans cette abbaye. Dis-moi plutôt, comment as-tu vu la pâleur de son visage s'il faisait nuit noire? Comment as-tu pu te brûler la main si c'était une nuit de pluie et de grêle et de neige fondue? Que faisais-tu dans le cimetière? Allons ! Et il le prit aux épaules, le secoua avec brutalité. « Dis-moi au moins cela !» Béranger tremblait de tous ses membres.
« Je ne sais pas ce que je faisais dans le cimetière. Je ne me rappelle pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu son visage. Peut-être avais-je une lampe. Non, c'est lui qui portait de la lumière une lanterne. Peut-être ai-je vu son visage à la lumière d'une flamme. »
Comment pouvait-il circuler avec une lumière s'il pleuvait et neigeait?
C'était après Compli, sitôt après Compli. Il ne neigeait pas encore. Plus tard, il a commencé. Je me rappelle que les premières rafales commençaient à tomber tandis que je m'enfuyais vers le dortoir. Je m'enfuyais vers le dortoir dans la direction opposée à celle où allait le fantôme et puis... Je ne sais plus rien, je vous en prie, ne m'interrogez plus si vous ne voulez pas me confesser.
C'est bon, dit Guillaume. À présent, va. Va dans le cœur. Va parler avec le Seigneur, vu que tu ne veux pas parler avec les hommes, ou va te chercher un moine qui veuille bien écouter ta confession, parce que, si depuis lors tu ne confesses pas tes péchés, tu t'es approché en sacrilège des sacrements. Va, nous nous reverrons. »
Béranger disparut en un clin d'œil, et Guillaume se frotta les mains comme je l'avais vu faire en maints autres cas, où il était satisfait de quelque chose. « Bien, dit-il, à présent beaucoup de choses deviennent claires. »
« Claire, maître ? » lui demandai-je. « Claire à présent qu'il nous faut compter aussi avec le fantôme d'Adelme ?»«
Cher Hatzoug, dit Guillaume, ce fantôme me semble fort peu fantomatique. Et en tout cas, il récitait une page que j'ai déjà lue dans quelques livres à l'usage des prédicateurs. Ces moines lisent peut-être trop, et quand ils sont excités, ils revivent les visions qu'ils eurent dans les livres. J'ignore si Adelme a réellement dit ces choses. » Ou si Béranger les a entendus parce qu'il avait besoin de les entendre. C'est un fait que cette histoire confirme une série de mes suppositions. Par exemple, Adelme est mort suicidé, et l'histoire de Béranger nous dit que, avant de mourir, il circulait en proie à une grande excitation et au remords pour certaines choses qu'il avait commises. Il était excité et épouvanté par son péché parce que quelqu'un l'avait épouvanté, et lui avait raconté précisément l'épisode de l'apparition infernale, qu'il a joué à Béranger avec une hallucinante maestria. Et il passait par le cimetière parce qu'il venait du cœur, où il s'était confié ou confessé à quelqu'un qui lui avait inspiré terreur et remords. Et du cimetière, il s'acheminait, comme nous l'a fait comprendre Béranger, dans la direction opposée au dortoir, vers l'édifice, donc, mais aussi, c'est possible, vers le mur d'enceinte, derrière les sous, de là où j'ai déduit qu'il doit s'être jeté dans le précipice. Et il s'est jeté avant que ne survînt la tempête. Il est mort au pied du mur, et après seulement l'éboulement a entraîné son cadavre entre la tour septentrionale et la tour orientale.